Save big this holiday season. All in the Kroger app.
Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
20e section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Lucien était beau comme un dieu grec. Il prit un fiacre et fut à 7h15 à la porte de la maison du café Cervelle. La portière l'invita à grimper 4 étages en lui donnant des notions topographiques assez compliquées. Armé de ses renseignements, il trouva, non sans peine, une porte ouverte au bout d'un long corridor obscur et reconnut la chambre classique du quartier latin. La misère des jeunes gens le poursuivait là comme rue de Cluny chez d'Arthez, chez Chrétien, partout. Mais partout, elle se recommande par l'empreinte que lui donne le caractère du patient. Là, cette misère était sinistre. Un lit en noyer, sans rideaux, au bas duquel grimaçait un méchant tapis d'occasion. Aux fenêtres, des rideaux jaunis par la fumée d'une cheminée qui n'allait pas et par celle du cigare. Sur la cheminée, une lampe carcelle donnée par Florine et encore échappée au monde-piété. Puis, une commode d'acajou ternie, une table chargée de papier, 2 ou 3 plumes ébouriffées là-dessus. Pas d'autres livres que ceux apportés la veille ou pendant la journée. Tel était le mobilier de cette chambre dénuée d'objets de valeur, mais qui offrait un ignoble assemblage de mauvaises bottes bâillant dans un coin, de vieilles chaussettes à l'état de dentelle. Dans un autre, des cigares écrasés, des mouchoirs sales, des chemises en 2 volumes, des cravates à 3 éditions. C'était enfin un bivouac littéraire meublé de choses négatives et de la plus étrange nudité qui se puisse imaginer. Sur la table de nuit, chargée des livres lus pendant la matinée, brillait le rouleau rouge de fumade. Sur le manteau de la cheminée errait un rasoir, une paire de pistolets, une boîte à cigares. Dans un panneau, Lucien vit des fleurets croisés sous un masque. 3 chaises et 2 fauteuils, à peine dignes du plus méchant hôtel garni de cette rue, complétaient cet ameublement. Cette chambre à la fois sale et triste annonçait une vie sans repos et sans dignité. On y dormait, on y travaillait à la hâte, elle était habitée par force. On éprouvait le besoin de la quitter. Quelle différence entre ce désordre cynique et la propre, la décente misère de d'Arthez! Ce conseil, enveloppé dans un souvenir, Lucien ne l'écouta pas, car Étienne lui fit une plaisanterie pour masquer le nu du vice. « Voilà mon chenil. Ma grande représentation est rue de Bondy, dans le nouvel appartement que notre droguiste a meublé pour Florine, et que nous inaugurons ce soir. » Étienne Lousteau avait un pantalon noir, des bottes bien cirées, un habit boutonné jusqu'au cou. Sa chemise, que Florine devait sans doute lui changer, était cachée par un col de velours et il brossait son chapeau pour lui donner l'apparence du neuf. « Partons, » dit Lucien. « Pas encore. J'attends un libraire pour avoir de la monnaie. On jouera peut-être. Je n'ai pas un liard, et d'ailleurs, il me faut des gants. » En ce moment, les 2 nouveaux amis entendirent les pas d'un homme dans le corridor. « C'est lui, » dit Lousteau. « Vous allez voir, mon cher, la tournure que prend la Providence quand elle se manifeste au poète. » Avant de contempler dans sa gloire Doria, le libraire fashionable, vous aurez vu le libraire du quai des Augustins, le libraire escompteur, le marchand de ferrailles littéraires, le normand ex-vendeur de salades. « Arrivez donc, vieux Tartare !» cria Lousteau. « Me voilà, » dit une voix fêlée comme celle d'une cloche cassée. « Avec de l'argent ?»« De l'argent ? Il n'y en a plus en librairie, » répondit un jeune homme qui entra en regardant Lucien d'un air curieux. « Vous me devez 50 francs, d'abord, » reprit Lousteau. « Puis voici deux exemplaires d'un voyage en Égypte qu'on dit une merveille. Il y foisonne des gravures. Il se vendra. Finot a été payé pour deux articles que je dois faire. Item, deux des derniers romans de Victor Ducange, un auteur illustre au Marais. Item, deux exemplaires du second ouvrage d'un commençant, Paul de Kock, qui travaille dans le même genre. Item, deux d'Isolt de Dôle, un joli ouvrage de province. En tout, 100 francs, au prix fort. Ainsi vous me devez 100 francs, mon petit Barbet. » Barbet regarda les livres en examinant les tranches et les couvertures avec soin. « Oh, ils sont dans un état parfait de conservation !» s'écria Lousteau. « Le voyage n'est pas coupé, ni le Paul de Kock, ni le Ducange, ni celui-là sur la cheminée. Considération sur la symbolique. Je vous l'abandonne. Le mythe est si ennuyeux que je le donne pour ne pas en voir sortir des milliers de mythes. « Eh bien, » dit Lucien, « comment ferez-vous vos articles ?» Barbet jeta sur Lucien un regard de profond étonnement et reporta ses yeux sur Étienne en ricanant. « On voit que monsieur n'a pas le malheur d'être homme de lettres. »« Non, Barbet, non. Monsieur est un poète, un grand poète qui enfoncera Canalis, Béranger et Delavigne. Il ira loin, à moins qu'il ne se jette à l'eau. Encore irait-il jusqu'à Saint-Cloud. »« Si j'avais un conseil à donner à monsieur, » dit Barbet, « ce serait de laisser les vers et de se mettre à la prose. On ne veut plus de vers sur le quai. » Barbet avait une méchante redingote boutonnée par un seul bouton. Son col était gras. Il gardait son chapeau sur la tête. Il portait des souliers. Son gilet entr'ouvert laissait voir une bonne grosse chemise de toile forte. Sa figure ronde, percée de deux yeux avides, ne manquait pas de bonhomie. Mais il avait dans le regard l'inquiétude vague des gens habitués à s'entendre demander de l'argent et qui en ont. Il paraissait rond et facile, tant sa finesse était cotonnée d'embonpoint. Après avoir été commis, il avait pris depuis 2 ans une misérable petite boutique sur le quai, d'où il s'élançait chez les journalistes, chez les auteurs, chez les imprimeurs, y achetant à bas prix les livres qui leur étaient donnés, et gagnant ainsi quelque 10 ou 20 francs par jour. Riche de ses économies, il flairait les besoins de chacun. Il espionnait quelque bonne affaire. Il escomptait au taux de 15 ou 20 %. Chez les auteurs gênés, les effets des libraires auxquels il allait le lendemain acheter, à prix débattu au comptant, quelques bons livres demandés. Puis il leur rendait leurs propres effets au lieu d'argent. Il avait fait ses études et son instruction lui servait à éviter soigneusement la poésie et les romans modernes. Il affectionnait les petites entreprises, les livres d'utilité dont l'entière propriété coûtait 1 000 francs et qu'il pouvait exploiter à son gré, tels que l'Histoire de France mise à la portée des enfants, la tenue des livres en 20 leçons, la botanique des jeunes filles. Il avait laissé échapper déjà 2 ou 3 bons livres, après avoir fait revenir 20 fois les auteurs chez lui, sans se décider à leur acheter leurs manuscrits. Quand on lui reprochait sa couardise, il montrait la relation d'un fameux procès dont le manuscrit, pris dans les journaux, ne lui coûtait rien, et lui avait rapporté 2 ou 3 000 francs. Barbet était le libraire trembleur, qui vit de noix et de pain, qui souscrit peu de billets, qui grappille sur les factures, les réduit, colporte lui-même ses livres, on ne sait où, mais qui les place et se les fait payer. Il était la terreur des imprimeurs qui ne savaient comment le prendre. Il les payait sous escompte et reniait leurs factures en devinant des besoins urgents. Puis il ne se servait plus de ceux qu'il avait étriés, en craignant quelques pièges. « Eh bien, continuons-nous nos affaires ?» dit Lousteau. « Eh, mon petit, » dit familièrement Barbet, « j'ai dans ma boutique 6 000 volumes à vendre. Or, selon le mot d'un vieux libraire, les livres ne sont pas des francs. La librairie va mal. Si vous alliez dans sa boutique, mon cher Lucien, dit Étienne, vous trouveriez sur un comptoir en bois de chêne qui vient de la vente après faillite de quelques marchands de vin une chandelle non mouchée. Elle se consume alors moins vite. À peine éclairée par cette lueur anonyme, vous apercevriez des casiers vides. Pour garder ce néant, un petit garçon en veste bleue souffle dans ses doigts, bat la semelle ou se brasse comme un cocher de fiacre sur son siège. Regardez, pas plus de livres que je n'en ai ici. Personne ne peut deviner le commerce qui se fait là. Voici un billet de 100 francs à 3 mois, dit Barbet, qui ne put s'empêcher de sourire en sortant un papier timbré de sa poche, et j'emporterai vos bouquins. Voyez-vous, je ne peux plus donner d'argent comptant. Les ventes sont trop difficiles. J'ai pensé que vous aviez besoin de moi. J'étais sans le sou, j'ai souscrit un effet pour vous obliger, car je n'aime pas à donner ma signature. Ainsi, vous voulez encore mon estime et mes remerciements, dit Lousteau. Quoiqu'on ne paye pas ces billets avec des sentiments, je les accepterai tout de même, répondit Barbet. Mais il me faut des gants, et les parfumeurs auront la lâcheté de refuser votre papier, dit Lousteau. Tenez, voilà une superbe gravure, là, dans le premier tiroir de la commode. Elle vaut 80 francs. Elle est avant la lettre et après l'article, car j'en ai fait un assez bouffon. Il y avait à mordre sur Hippocrate refusant les présents d'Artaxerxès. Hein? Cette belle planche convient à tous les médecins qui refusent les dons exagérés des satrapes parisiens. Vous trouverez encore sous la gravure une 30aine de romances. Allons, prenez le tout et donnez-moi 40 francs. 40 francs? Dit le libraire en jetant un cri de poule effrayée. « Tout au plus 20. Encore puis-je les perdre ?» ajouta Barbet. « Où sont les 20 francs ?» dit Lousteau. « Ma foi, je ne sais pas si je les ai, » dit Barbet en se fouillant. « Les voilà. Vous me dépouillez. Vous avez sur moi un ascendant. Allons, partons, » dit Lousteau, qui prit le manuscrit de Lucien et fit un trait à l'encre sous la corde. « Avez-vous encore quelque chose ?» demanda Barbet. « Rien, mon petit Shylock. Je te ferai faire une affaire excellente, où tu perdras 1000 écus pour t'apprendre à me voler ainsi, » dit à voix basse Étienne à Lucien. « Et vos articles ?» dit Lucien en roulant vers le Palais-Royal. « Bah, vous ne savez pas comment cela se bâcle. Quant au voyage en Égypte, j'ai ouvert le livre et lu des endroits ça et là sans le couper. J'y ai découvert 11 fautes de français. » Je ferai une colonne en disant que si l'auteur a appris le langage des canards gravés sur les cailloux égyptiens, appelés des obélisques, il ne connaît pas sa langue et je le lui prouverai. Je dirai qu'au lieu de nous parler d'histoire naturelle et d'antiquité, il aurait dû ne s'occuper que de l'avenir de l'Égypte, du progrès de la civilisation, des moyens de rallier l'Égypte à la France, qui, après l'avoir conquise et perdue, peut se l'attacher encore par l'ascendant moral. Là-dessus, une tartine patriotique, le tout entrelardé de tirades sur Marseille, sur le Levant, sur notre commerce. Mais s'il avait fait cela, que diriez-vous? Eh bien, je dirais qu'au lieu de nous ennuyer de politique, il aurait dû s'occuper de l'art, nous peindre le pays sous son côté pittoresque et territorial. Le critique se lamente alors. La politique, dit-il, nous déborde, elle nous ennuie, on la trouve partout. Je regretterai ces charmants voyages où l'on vous expliquait les difficultés de la navigation, le charme des débouquements, les délices du passage de la ligne. Enfin, ce qu'ont besoin de savoir ceux qui ne voyageront jamais. Tout en les approuvant, on se moque des voyageurs qui célèbrent comme de grands événements un oiseau qui passe, un poisson volant, une pêche, les points géographiques relevés, les bas-fonds reconnus. Ou redemandent ces choses scientifiques parfaitement inintelligibles, qui fascinent comme tout ce qui est profond, mystérieux, incompréhensible. L'abonné rit, il est servi. Quant au roman, Florine est la plus grande liseuse de romans qu'il y ait au monde. Elle m'en fait l'analyse et je broche mon article, d'après son opinion. Quand elle a été ennuyée par ce qu'elle nomme les phrases d'auteur, je prends le livre en considération. Et fait redemander un exemplaire au libraire qui l'envoie, enchanté d'avoir un article favorable. Bon Dieu, mais la critique, la sainte critique, dit Lucien, imbu des doctrines de son cénacle. « Mon cher, dit Lousteau, la critique est une brosse qui ne peut pas s'employer sur les étoffes légères, où elle emporterait tout. Écoutez, laissons là le métier. Voyez-vous cette marque ?» lui dit-il en lui montrant le manuscrit des Marguerites. « J'ai uni par un peu d'encre votre corps de papier. Si Dauriat lit votre manuscrit, il lui sera certes impossible de remettre la corde exactement. Ainsi votre manuscrit est comme scellé. Ceci n'est pas inutile pour l'expérience que vous voulez faire. Encore, remarquez que vous n'arriverez pas, seul et sans parrain, dans cette boutique, comme ces petits jeunes gens qui se présentent chez 10 libraires avant d'en trouver un qui leur présente une chaise. » Lucien avait éprouvé déjà la vérité de ce détail. Lousteau paya le fiacre en lui donnant 3 francs, au grand ébahissement de Lucien, surpris de la prodigalité qui succédait à tant de misère. Puis les deux amis entrèrent dans les galeries de bois, où trônait alors la librairie dite de nouveauté. À cette époque, les galeries de bois constituaient une des curiosités parisiennes les plus illustres. Il n'est pas inutile de peindre ce bazar ignoble, car, pendant 36 ans, il a joué dans la vie parisienne un si grand rôle qu'il est peu d'hommes âgés, de 40 ans, à qui cette description, incroyable pour les jeunes gens, ne fasse encore plaisir. En place de la froide, haute et large galerie d'Orléans, espèce de serre sans fleurs, se trouvaient des baraques, ou pour être plus exact, des huttes en planches, assez mal couvertes, petites, mal éclairées sur la cour et sur le jardin par des jours de souffrance, appelés croisées, mais qui ressemblaient aux plus sales ouvertures des guinguettes hors barrière. Une triple rangée de boutiques y formait 2 galeries. Haute d'environ 12 pieds. Les boutiques, sises au milieu, donnaient sur les 2 galeries dont l'atmosphère leur livrait un air méphitique et dont la toiture laissant passer peu de jour à travers des vitres toujours sales. Ces alvéoles avaient acquis un tel prix par suite de l'affluence du monde que malgré l'étroitesse de certaines, à peine larges de 6 pieds et longues de 8 à 10, leur location coûtait 1000 écus. Les boutiques, éclairées sur le jardin et sur la cour, étaient protégées par de petits treillages verts, peut-être pour empêcher la foule de démolir, par son contact, les murs en mauvais plâtras qui formaient le derrière des magasins. Là donc se trouvait un espace de 2 ou 3 pieds où végétaient les produits les plus bizarres d'une botanique inconnue à la science, mêlés à ceux de diverses industries non moins florissantes. Une maculature coiffait un rosier, en sorte que les fleurs de rhétorique étaient embaumées par les fleurs avortées de ce jardin mal soigné, mais fétidement arrosé. Des rubans de toutes les couleurs ou des prospectus fleurissaient dans les feuillages. Les débris de mode étouffaient la végétation. Vous trouviez un nœud de ruban sur une touffe de verdure, et vous étiez déçu dans vos idées sur la fleur que vous veniez admirer en apercevant une coque de satin qui figurait un dahlia. Du côté de la cour, comme du côté du jardin, l'aspect de ce palais fantasque offrait tout ce que la saleté parisienne a produit de plus bizarre. Des badigeonnages lavés, des plâtras refaits, de vieilles peintures, des écriteaux fantastiques. Enfin, le public parisien salissait énormément les treillages verts, soit sur le jardin, soit sur la cour. Ainsi, des 2 côtés, une bordure infâme et nauséabonde semblait défendre l'approche des galeries aux gens délicats. Mais les gens délicats ne reculaient pas plus devant ces horribles choses que les princes des contes de fées ne reculent devant les dragons et les obstacles interposés par un mauvais génie entre eux et les princesses. Ces galeries étaient comme aujourd'hui percées au milieu par un passage, et comme aujourd'hui l'on y pénétrait encore par les 2 péristyles actuels commencés avant la Révolution et abandonnés faute d'argent. La belle galerie de pierre qui mène au Théâtre-Français formait alors un passage étroit d'une hauteur démesurée et si mal couvert qu'il y pleuvait souvent. On la nommait galerie vitrée pour la distinguer des galeries de bois. Les toitures de ces bouges étaient toutes d'ailleurs en si mauvais état que la maison d'Orléans eut un procès avec un célèbre marchand de cachemire et d'étoffes qui, pendant une nuit, trouva des marchandises avariées pour une somme considérable. Le marchand eut gain de cause. Une double toile goudronnée servait de couverture en quelques endroits. Le sol de la galerie vitrée, où Chevet commença sa fortune, et celui des galeries de bois étaient le sol naturel de Paris, augmenté du sol factice amené par les bottes et les souliers des passants. En tout temps, les pieds heurtaient des montagnes et des vallées de boue durcies, incessamment balayées par les marchands, et qui demandaient aux nouveaux venus une certaine habitude pour y marcher. Ce sinistre amas de crottes, ces vitrages encrassés par la pluie et par la poussière, ces huttes plates et couvertes de haillons au dehors, la saleté des murailles commencées, cet ensemble de choses qui tenait du camp des bohémiens, des baraques d'une foire, des constructions provisoires avec lesquelles on entoure à Paris les monuments qu'on ne bâtit pas, cette physionomie grimaçante allait admirablement aux différents commerces qui grouillaient sous ce hangar impudique, effronté, plein de gazouillements et d'une gaieté folle, où, depuis la révolution de 1789 jusqu'à la révolution de 1830, il s'est fait d'immenses affaires. Pendant 20 années, la bourse s'est tenue en face au rez-de-chaussée du palais. Ainsi, l'opinion publique, les réputations se faisaient et se défaisaient là aussi bien que les affaires politiques et financières. On se donnait rendez-vous dans ces galeries avant et après la bourse. Le Paris des banquiers et des commerçants encombrait souvent la cour du Palais-Royal et refluait sous ses abris par les temps de pluie. La nature de ce bâtiment, surgi sur ce point on ne sait comment, le rendait d'une étrange sonorité. Les éclats de rire y foisonnaient. Il n'arrivait pas une querelle à un bout qu'on ne sût à l'autre de quoi il s'agissait. Il n'y avait là que des libraires, de la poésie, de la politique et de la prose. Des marchandes de mode, enfin des filles de joie qui venaient seulement le soir. Là fleurissaient les nouvelles et les livres, les jeunes et les vieilles gloires, les conspirations de la tribune et les mensonges de la librairie. Là se vendaient les nouveautés au public qui s'obstinait à ne les acheter que là. Là se sont vendus dans une seule soirée plusieurs milliers de tel ou tel pamphlet de Paul-Louis Courier ou des aventures de la fille d'un roi. À l'époque où Lucien s'y produisait, quelques boutiques avaient des devantures, des vitrages assez élégants, mais ces boutiques appartenaient aux rangées donnant sur le jardin ou sur la cour. Jusqu'au jour où périt cette étrange colonie sous le marteau de l'architecte Fontaine, les boutiques sises entre les deux galeries furent entièrement ouvertes, soutenues par des piliers, comme les boutiques des foires de province, et l'œil plongé sur les deux galeries à travers les marchandises ou les portes vitrées. Comme il était impossible d'y avoir du feu, les marchands n'avaient que des chaufferettes et faisaient eux-mêmes la police du feu. Car une imprudence pouvait enflammer en un quart d'heure cette république de planches desséchées par le soleil, et comme enflammée déjà par la prostitution, encombrée de gaz, de mousseline, de papier, quelquefois ventilée par des courants d'air. Les boutiques de modistes étaient pleines de chapeaux inconcevables, qui semblaient être là moins pour la vente que pour l'étalage, tous accrochés par centaines à des broches de fer terminées en champignons et pavoisant les galeries de leurs mille couleurs. Pendant 20 ans, tous les promeneurs se sont demandé sur quelle tête ces chapeaux poudreux achevaient leur carrière. Des ouvrières généralement laides, mais égrillardes, raccrochaient les femmes par des paroles astucieuses, suivant la coutume et avec le langage de la halle. Une grisette, dont la langue était aussi déliée que ses yeux étaient actifs, se tenait sur un tabouret et harcelait les passants. « Achetez-vous un joli chapeau, madame ? Laissez-moi donc vous vendre quelque chose, monsieur. » Leur vocabulaire fécond et pittoresque était varié par les inflexions de voix, par des regards et par des critiques sur les passants. Les libraires et les marchandes de mode vivaient en bonne intelligence. Dans le passage, nommé si fastueusement la galerie vitrée, se trouvaient les commerces les plus singuliers. Là s'établissaient les ventriloques, les charlatans de toute espèce, les spectacles où l'on ne voit rien et ceux où l'on vous montre le monde entier. Là s'est établi pour la première fois un homme qui a gagné 700 ou 800 000 francs à parcourir les foires. il avait pour enseigne un soleil tournant dans un cadre noir, autour duquel éclataient ces mots écrits en rouge. Ici, l'homme voit ce que Dieu ne saurait voir. Prix 2 sous. L'aboyeur ne vous admettait jamais seul, ni jamais plus de 2. Une fois entré, vous vous trouviez nez à nez avec une grande glace. Tout à coup, une voix qui eût épouvanté Hoffmann, le Berlinois, partait comme une mécanique dont le ressort est poussé. Vous voyez là, messieurs, ce que dans toute l'éternité Dieu ne saurait voir, c'est-à-dire votre semblable. Dieu n'a pas son semblable. Vous vous en alliez honteux sans oser avouer votre stupidité. De toutes les petites portes partaient des voix semblables qui vous vantaient des cosmoramas, des vues de Constantinople, des spectacles de marionnettes, des automates qui jouaient aux échecs, des chiens qui distinguaient la plus belle femme de la société. Le ventriloque Fitz-James a fleuri là dans le café Borel avant d'aller mourir à Montmartre, mêlé aux élèves de l'école polytechnique. Il y avait des fruitières et des marchandes de bouquets, un fameux tailleur dont les broderies militaires reluisaient le soir comme des soleils. Le matin, jusqu'à 2 heures après-midi, les galeries de bois étaient muettes, sombres et désertes. Les marchands y causaient comme chez eux. Le rendez-vous que s'y est donné la population parisienne ne commençait que vers 3 heures à l'heure de la bourse. Dès que la foule venait, il se pratiquait des lectures gratuites à l'étalage des libraires par les jeunes gens affamés de littérature et dénués d'argent. Les commis, chargés de veiller sur les livres exposés, laissaient charitablement les pauvres gens tournant les pages. Quand il s'agissait d'un indus de 200 pages comme Smara, Pierre Schlemihl, Jean Sbogar, Joko, en 2 séances il était dévoré. En ce temps-là, les cabinets de lecture n'existaient pas. Il fallait acheter un livre pour le lire. Aussi les romans se vendaient-ils alors à des nombres qui paraîtraient fabuleux aujourd'hui. Il y avait donc je ne sais quoi de français dans cette aumône faite à l'intelligence jeune, avide et pauvre. La poésie de ce terrible bazar éclatait à la tombée du jour. De toute rue adjacente, allaient et venaient un grand nombre de filles qui pouvaient s'y promener sans rétribution. De tous les points de Paris, une fille de joie accourait faire son palais. Les galeries de pierre appartenaient à des maisons privilégiées qui payaient le droit d'exposer des créatures habillées comme des princesses entre telle ou telle arcade et à la place correspondante dans le jardin, tandis que les galeries de bois étaient pour la prostitution un terrain public. Le palais par excellence, mot qui signifiait alors le temple de la prostitution. Une femme pouvait y venir, en sortir accompagnée de sa proie et l'emmener où bon lui semblait. Ces femmes attiraient donc le soir aux galeries de bois une foule si considérable qu'on y marchait au pas, comme à la procession ou au bal masqué. Cette lenteur, qui ne gênait personne, servait à l'examen. Ces femmes avaient une mise qui n'existe plus. La manière dont elle se tenait décolletée jusqu'au milieu du dos et très bas aussi par devant, leur bizarre coiffure inventée pour attirer les regards, celle-ci en cauchoise, celle-là en espagnole, l'une bouclée comme un caniche, l'autre en bandeau lisse, leurs jambes serrées par des bas blancs et montrées, on ne sait comment, mais toujours à propos. Toute cette infâme poésie est perdue. La licence des interrogations et des réponses, ce cynisme public en harmonie avec le lieu, ne se retrouve plus, ni au bal masqué, ni dans les bals si célèbres qui se donnent aujourd'hui. C'était horrible et gai. La chair éclatante des épaules et des gorges étincelait au milieu des vêtements d'hommes presque toujours sombres et produisait les plus magnifiques oppositions. Le brouhaha des voix et le bruit de la promenade formaient un murmure qui s'entendait dès le milieu du jardin, comme une basse continue brodée des éclats de rire des filles ou des cris de quelques rares disputes. Les personnes comme il faut, les hommes les plus marquants, y étaient coudoyés par des gens à figure patibulaire. Ces monstrueux assemblages avaient je ne sais quoi de piquant. Les hommes les plus insensibles étaient émus. Aussi tout Paris est-il venu là, jusqu'au dernier moment. Il s'y est promené sur le plancher de bois que l'architecte a fait au-dessus des caves pendant qu'il les bâtissait. Des regrets immenses et unanimes ont accompagné la chute de ces ignobles morceaux de bois. Le libraire, l'advocat, s'était établi depuis quelques jours à l'angle du passage qui partageait ses galeries par le milieu, devant Dauriat, jeune homme maintenant oublié, mais audacieux, et qui défricha la route où brilla depuis son concurrent. La boutique de Dauriat se trouvait sur une des rangées donnant sur le jardin, et celle de l'advocat était sur la cour. Divisée en deux parties, la boutique de Dauriat offrait un vaste magasin à sa librairie, et l'autre portion lui servait de cabinet. Lucien, qui venait là pour la première fois le soir, fut étourdi de cet aspect auquel ne résistaient pas les provinciaux ni les jeunes gens. Il perdit bientôt son introducteur. « Si tu étais beau comme ce garçon-là, je le donnerais du retour, » dit une créature à un vieillard en lui montrant Lucien. Lucien devint honteux comme le chien d'un aveugle. Il suivit le torrent dans un état d'hébétement et d'excitation difficile à décrire. Harcelé par les regards des femmes, sollicité par des rondeurs blanches, par des gorges audacieuses qui l'éblouissaient, il se raccrochait à son manuscrit qu'il serrait pour qu'on ne le lui volât point, l'innocent. « Eh bien, monsieur, » cria-t-il en se sentant pris par un bras et croyant que sa poésie avait alléché quelque auteur. Il reconnut son ami Lousteau qui lui dit « Je savais bien que vous finiriez par passer là. » Le poète était sur la porte du magasin où Lousteau le fit entrer, et qui était plein de gens attendant le moment de parler au sultan de la librairie. Les imprimeurs, les papetiers et les dessinateurs, groupés autour des commis, les questionnaient sur des affaires en train ou qui se méditaient. « Tenez, voilà Finot, le directeur de mon journal. Il cause avec un jeune homme qui a du talent, Félicien Vernou, un petit drôle méchant comme une maladie secrète. » « Eh bien, tu as une première représentation, mon vieux, » dit Finot, en venant avec Vernou à Lousteau. « J'ai disposé de la loge. »« Tu l'as vendue à Braulard ? » ?»« Eh bien, après, tu te feras placer. Que viens-tu demander à Dauriat ?»« Ah, il est convenu que nous pousserons Paul de Kock. Dauriat en a pris 200 exemplaires et Victor Ducange lui refuse un roman. »« Dauriat veut, dit-il, faire un nouvel auteur dans le même genre. » Tu mettras Paul de Kock au-dessus de Ducange. Mais j'ai une pièce avec Ducange à la Gaîté, dit Lousteau. Eh bien, tu lui diras que l'article est de moi. Je serai censé l'avoir fait atroce. Tu l'auras adouci. Il te devra des remerciements. Ne pourrais-tu me faire escompter ce petit bon de 100 francs par le caissier de Dauriat, dit Étienne à Finot. Tu sais, nous soupons ensemble pour inaugurer le nouvel appartement de Florine. Ah oui! « Tu nous traites, » dit Finot en ayant l'air de faire un effort de mémoire. « Eh bien, Gabusson, » dit Finot en prenant le billet de Barbet et le présentant au caissier, « donnez 90 francs pour moi à cet homme-là. Endosse le billet, mon vieux. » Lousteau prit la plume du caissier pendant que le caissier comptait l'argent et signa. Lucien, tout yeux et tout oreille, ne perdit pas une syllabe de cette conversation. « Ce n'est pas tout, mon cher ami, » reprit Étienne. « Je ne te dis pas merci, c'est entre nous à la vie à la mort. Je dois présenter monsieur à Dauriat, et tu devrais le disposer à nous écouter. »« De quoi s'agit-il ? » demanda Finot. « D'un recueil de poésie, » répondit Lucien. « Ah ! » dit Finot, en faisant un haut-le-corps. « Monsieur, » dit Vernou en regardant Lucien, « ne pratique pas depuis longtemps la librairie. Il aurait déjà serré son manuscrit dans les coins les plus sauvages de son domicile. » En ce moment, un beau jeune homme, Émile Blondet, qui venait de débuter au journal des débats par des articles de la plus grande portée, entra, donna la main à Finot, à Lousteau et salua légèrement vers nous. « Viens souper avec nous, à minuit, chez Florine, » lui dit Lousteau. « J'en suis, » dit le jeune homme, « mais qui y a-t-il ? » « Ah, il y a, » dit Lousteau, « Florine et Matifat, le droguiste. » Du Bruel, l'auteur qui a donné un rôle à Florine pour son début. Un petit vieux, le père Cardot, et son gendre, Camusot. Puis Finot. Fait-il les choses convenablement, ton droguiste ? Il ne nous donnera pas de drogue, dit Lucien. Monsieur a beaucoup d'esprit, dit sérieusement Blondet en regardant Lucien. Il est du souper, Lousteau ? Oui, nous rirons bien. Lucien avait rougi jusqu'aux oreilles. En as-tu pour longtemps, Dauriat ? Dit Blondet en frappant à la vitre qui donnait au-dessus du bureau de Dauriat. « Mon ami, je suis à toi. »
Bon,
dit Lousteau à son protégé. Ce jeune homme, presque aussi jeune que vous, est au débat. Il est un des princes de la critique. Il est redouté. Dauriat viendra le cajoler, et nous pourrons alors dire notre affaire au pacha des vignettes et de l'imprimerie. Autrement, à 11 heures, notre tour ne serait pas venu. L'audience se grossira de moment en moment. Lucien et Lousteau s'approchèrent alors de Blondet, de Finot, de Vernou, et allèrent former un groupe à l'extrémité de la boutique. « Que fait-il ? » dit Blondet à Gabusson, le premier commis qui se leva pour venir le saluer. « Il achève un journal hebdomadaire qu'il veut restaurer afin de l'opposer à l'influence de la Minerve, qui sert trop exclusivement Emery, et au conservateur, qui est trop aveuglément romantique. « Paiera-t-il bien ? Mais comme toujours, trop ?» dit le caissier. En ce moment, un jeune homme entra, qui venait de faire paraître un magnifique roman, vendu rapidement et couronné par le plus beau succès, un roman dont la seconde édition s'imprimait pour Dauriat. Ce jeune homme, doué de cette tournure extraordinaire et bizarre qui signale les natures artistes, frappa vivement Lucien. « Voilà Nathan, » dit Lousteau à l'oreille du poète de province. Nathan, malgré la sauvage fierté de sa physionomie, alors dans toute sa jeunesse, aborda les journalistes chapeau bas et se tint presque humble devant Blondet, qu'il ne connaissait encore que de vue. Blondet et Finot gardèrent leur chapeau sur la tête. « Monsieur, je suis heureux de l'occasion que me présente le hasard. Il est si troublé qu'il fait un pléonasme, dit Félicien à Lousteau. De vous peindre ma reconnaissance pour le bel article que vous avez bien voulu me faire au journal des débats. Vous êtes pour la moitié dans le succès de mon livre.
Non, mon cher, non, dit Blondet d'un air où la protection se cachait sous la bonhomie. Vous avez du talent. Le diable m'emporte et je suis enchanté de faire votre connaissance.
Comme votre article a paru, je ne paraîtrai plus être le flatteur du pouvoir. Nous sommes maintenant à l'aise vis-à-vis l'un de l'autre. Voulez-vous me faire l'honneur et le plaisir de dîner avec moi demain ?
Finot en sera.
Lousteau, mon vieux, tu ne me refuseras pas, ajouta Nathan en donnant une poignée de main à Étienne.
Ah, vous êtes dans un beau chemin, monsieur, dit-il à Blondet. Vous continuez les Dussault, les Fiévé, les Geoffroy.
Hoffmann a parlé de vous à Claude Vignon, son élève, un de mes amis, et lui a dit qu'il mourrait tranquille, que le journal des débats vivrait éternellement. On doit vous payer énormément.
100 francs la colonne, reprit Blondet.
Ce prix est peu de chose quand on est obligé de lire les livres, d'en lire 100 pour en trouver un dont on peut s'occuper, comme le vôtre. Votre œuvre m'a fait plaisir, parole d'honneur.
Et il lui a rapporté 1500 francs, dit Lousteau à Lucien.
« Mais vous faites de la politique ?» reprit Nathan.
« Oui, par-ci, par-là, » répondit Blondet.
Lucien, qui se trouvait là comme un embryon, avait admiré le livre de Nathan. Il révérait l'auteur à l'égal d'un dieu, et il fut stupide de tant de lâcheté devant ce critique dont le nom et la portée lui étaient inconnus. « Me conduirai-je jamais ainsi ? Faut-il donc abdiquer sa dignité ?» se dit-il.
« Mets donc ton chapeau, Nathan. Tu as fait un beau livre, et le critique n'a fait qu'un article. »
Ses pensées lui fouettaient le sang dans les veines. Il apercevait de moment en moment des jeunes gens timides, des auteurs besogneux qui demandaient à parler à Dauriat, mais qui, voyant la boutique pleine, désespéraient d'avoir audience et disaient en sortant « Je reviendrai ». Deux ou trois hommes politiques causaient de la convocation des chambres et des affaires publiques au milieu d'un groupe composé de célébrités politiques. Le journal hebdomadaire duquel traitait Dauriat avait le droit de parler politique. Dans ce temps, les tribunes de papier timbré devenaient rares. Un journal était un privilège aussi couru que celui d'un théâtre. Un des actionnaires les plus influents du constitutionnel se trouvait au milieu du groupe politique. Lousteau s'acquittait à merveille de son office de cicérone. Aussi, de phrase en phrase, Dauriat grandissait-il dans l'esprit de Lucien, qui voyait la politique et la littérature convergeant dans cette boutique. À l'aspect d'un poète éminent, y prostituant la muse à un journaliste, y humiliant l'art, comme la femme était humiliée, prostituée sous ses galeries ignobles, le grand homme de province recevait des enseignements terribles. L'argent était le mot de toute énigme. Lucien se sentait seul, inconnu, rattaché par le fil d'une amitié douteuse au succès et à la fortune.
il accusait ses tendres, ses vrais amis du Cénacle de lui avoir peint le monde sous de fausses couleurs, de l'avoir empêché de se jeter dans cette mêlée, sa plume à la main. « Je serai déjà blondé, » s'écria-t-il en lui-même. Lousteau, qui venait de crier sur les sommets du Luxembourg comme un aigle blessé, qui lui avait paru si grand, n'eut plus alors que des proportions minimes. Là, le libraire fashionable, le moyen de toutes ses existences, lui parut être l'homme important. Le poète ressentit, son manuscrit à la main, une trépidation qui ressemblait à de la peur. Au milieu de cette boutique, sur des piédestaux de bois peints en marbre, il vit des bustes, celui de Byron, celui de Goethe et celui de Monsieur de Canalis, de qui Doria espérait obtenir un volume, et qui, le jour où il vint dans cette boutique, avait pu mesurer la hauteur à laquelle le mettait la librairie. Involontairement, Lucien perdait de sa propre valeur. Son courage faiblissait, il entrevoyait quelle était l'influence de ce Doria sur sa destinée, et il en attendait impatiemment l'apparition. « Eh bien, mes enfants, » dit un petit homme gros et gras à figure assez semblable à celle d'un proconsul romain, mais adouci par un air de bonhomie auquel se prenaient les gens superficiels. « Me voilà propriétaire du seul journal hebdomadaire qui put être acheté et qui a 2000 abonnés. Farceur. Le timbre en accuse 700, et c'est déjà bien joli, dit Blondet. Ma parole d'honneur, la plus sacrée. Il y en a 1200. J'ai dit 2000, ajouta-t-il à voix basse, à cause des papetiers et des imprimeurs qui sont là. Je te croyais plus de tact, mon petit, reprit-il à haute voix. Prenez-vous des associés? Demanda Finot. C'est selon, dit Doria. Veux-tu d'un tiers pour 40 000 francs? Ça va. Si vous acceptez pour rédacteur Émile Blondet que voici, Claude Vignon, scribe, Théodore Leclerc, Félicien Vernou, G, Jouy, Lousteau, et pourquoi pas Lucien de Rubempré, dit hardiment le poète de province en interrompant Finot. Et Nathan, dit Finot en terminant. Et pourquoi pas les gens qui se promènent, dit le libraire en fronçant le sourcil et se tournant vers l'auteur des Marguerites. À qui ai-je l'honneur de parler, dit-il en regardant Lucien d'un air impertinent. « Un moment, Doria, » répondit Lousteau, « c'est moi qui vous amène, monsieur. Pendant que Finot réfléchit à votre proposition, écoutez-moi. » Lucien eut sa chemise mouillée dans le dos en voyant l'air froid et mécontent de ce redoutable vizir de la librairie, qui tutoyait Finot, quoique Finot lui dit vous, qui appelait le redouté Blondet « mon petit », qui avait tendu royalement sa main à Nathan en lui faisant un signe de familiarité. « Une nouvelle affaire, mon petit, » s'écria Doria. « Mais tu le sais, j'ai 1100 manuscrits. »« Oui, messieurs, » cria-t-il, « on m'a offert 1100 manuscrits. Demandez à Gabusson. Enfin, j'aurai bientôt besoin d'une administration pour régir le dépôt des manuscrits, un bureau de lecture pour les examiner. Il y aura des stances pour voter sur leur mérite avec des jetons de présence et un secrétaire perpétuel pour me présenter des rapports. Ce sera la succursale de l'Académie française, et les académiciens seront mieux payés aux galeries de bois qu'à l'Institut. C'est une idée, dit Blondet. Une mauvaise idée, reprit Doria. Mon affaire n'est pas de procéder au dépouillement des élucubrations de ceux d'entre vous qui se mettent littérateurs, quand ils ne peuvent être ni capitalistes, ni bottiers, ni caporaux, ni domestiques, ni administrateurs, ni huissiers. On n'entre ici qu'avec une réputation faite. Devenez célèbre et vous y trouverez des flots d'or. Voilà trois grands hommes de ma façon. J'ai fait trois ingrats. Nathan parle de 6 000 francs pour la seconde édition de son livre, qui m'a coûté 3 000 francs d'articles et ne m'a pas rapporté 1 000 francs. Les deux articles de Blondet, je les ai payés 1 000 francs et un dîner de 500 francs. Mais, monsieur, si tous les libraires disent ce que vous dites, comment peut-on publier un premier livre ? Demanda Lucien aux yeux de qui Blondet perdit énormément de valeur quand il apprit le chiffre auquel Doria devait les articles des débats. « Cela ne me regarde pas, » dit Doria en plongeant un regard assassin sur le beau Lucien qui le regarda d'un air agréable. « Moi, je ne m'amuse pas à publier un livre, à risquer 2 000 francs pour en gagner 2 000. Je fais des spéculations en littérature. Je publie 40 volumes à 10 000 exemplaires, comme font Pankouk et les Baudouins. Ma puissance et les articles que j'obtiens poussent une affaire de 100 000 écus au lieu de pousser un volume de 2 000 francs. Il faut autant de peine pour faire prendre un nom nouveau, un auteur et son livre, que pour faire réussir les théâtres étrangers. Victoire et conquête, ou les mémoires sur la Révolution, qui sont une fortune. Je ne suis pas ici pour être le marchepied des gloires à venir, mais pour gagner de l'argent et pour en donner aux hommes célèbres. Le manuscrit que j'achète 100 000 francs est moins cher que celui dont l'auteur inconnu me demande 600 francs. Si je ne suis pas tout à fait un mécène, j'ai droit à la reconnaissance de la littérature. J'ai déjà fait hausser de plus du double le prix des manuscrits. Je vous donne ces raisons parce que vous êtes l'ami de Lousteau, mon petit, dit Dauriat au poète en le frappant sur l'épaule par un geste d'une révoltante familiarité. Si je causais avec tous les auteurs qui veulent que je sois leur éditeur, il faudrait fermer ma boutique, car je passerais mon temps en conversation extrêmement agréable, mais beaucoup trop chère. Je ne suis pas encore assez riche pour écouter les monologues de chaque amour-propre. Ça ne se voit qu'au théâtre, dans les tragédies classiques.
Fin de la 20e section. XXIe section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le luxe de la toilette de ce terrible Dauriat appuyait, aux yeux du poète de province, ce discours cruellement logique. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il à Lousteau. « Un magnifique volume de vers. » En entendant ce mot, Dauriat se tourna vers Gabusson par un mouvement digne de Talma. « Gabusson, mon ami, à compter d'aujourd'hui, quiconque viendra ici pour me proposer des manuscrits... Entendez-vous ça, vous autres ? » dit-il en s'adressant à trois commis qui sortirent de dessous les piles de livres, à la voix colérique de leur patron qui regardait ses ongles et sa main qu'il avait belle. « À quiconque m'apportera des manuscrits, vous demanderez si c'est des vers ou de la prose. En cas de vers, congédiez-le aussitôt. Les vers dévoreront la librairie. » « Bravo, il a bien dit cela, Dauriat, » crièrent les journalistes. « C'est vrai, » s'écria le libraire en arpentant sa boutique, le manuscrit de Lucien à la main. « Vous ne connaissez pas, messieurs, le mal que les succès de Lord Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, de Casimir de Lavigne, de Canalis et de Béranger ont produit. Leur gloire nous vaut une invasion de barbares. Je suis sûr qu'il y a dans ce moment en librairie 1000 volumes de vers proposés qui commencent par des histoires interrompues et sans queue ni tête, à l'imitation du corsaire et de Lara. Sous prétexte d'originalité, les jeunes gens se livrent à des strophes incompréhensibles, à des poèmes descriptifs où la jeune école se croit nouvelle en inventant de l'île. Depuis 2 ans, les poètes ont pullulé comme les hannetons. J'y ai perdu 20 000 francs l'année dernière. Demandez à Gabusson. Il peut y avoir, dans le monde des poètes, immortels. J'en connais de roses et de frais qui ne se font pas encore la barbe, dit-il à Lucien. Mais en librairie, jeune homme, il n'y a que 4 poètes, Béranger, Casimir de Lavigne, Lamartine et Victor Hugo. Car Canalis, c'est un poète fait à coups d'articles. Lucien ne se sentit pas le courage de se redresser et de faire de la fierté devant ces hommes influents qui riaient de bon cœur. Il comprit qu'il serait perdu de ridicule. Mais il éprouvait une démangeaison violente de sauter à la gorge du libraire, de lui déranger l'insultante harmonie de son nœud de cravate, de briser la chaîne d'or qui brillait sur sa poitrine, de fouler sa montre et de le déchirer. L'amour-propre irrité ouvrit la porte à la vengeance. Il jura une haine mortelle à ce libraire auquel il souriait. La poésie est comme le soleil qui fait pousser les forêts éternelles et qui engendre les cousins, les moucherons, les moustiques, dit Blondet. Il n'y a pas une vertu qui ne soit doublée d'un vice. La littérature engendre bien les libraires. Et les journalistes, dit Lousteau. Dauriat partit d'un éclat de rire. Qu'est-ce que ça, enfin ? Dit-il en montrant le manuscrit. Un recueil de sonnets à faire honte à Pétrarque, dit Lousteau. « Comment l'entends-tu ? » demanda Dauriat. « Comme tout le monde, » dit Lousteau, qui vit un sourire fin sur toutes les lèvres.
Lucien ne pouvait se fâcher, mais il suait dans son harnais.
« Eh bien, je le lirai, » dit Dauriat en faisant un geste royal qui montrait toute l'étendue de cette concession. « Si tes sonnets sont à la hauteur du XIXe siècle, je ferai de toi, mon petit, un grand poète. » « S'il a autant d'esprit qu'il est beau, vous ne courez pas de grands risques, » dit un des plus fameux orateurs de la Chambre qui causait avec un des rédacteurs du Constitutionnel et le directeur de la Minerve.
« Général, » dit Dauriat, « la gloire, c'est 12 000 francs d'articles et 1 000 écus de dîner. Demandez à l'auteur du solitaire. Si monsieur Benjamin Constant veut faire un article sur ce jeune poète, je ne serai pas longtemps à conclure l'affaire. »
Au mot de « général » et en entendant nommer l'illustre Benjamin Constant, la boutique prit aux yeux du grand homme de province les proportions de l'Olympe.
« Lousteau, j'ai à te parler, » dit Finot, « mais je te retrouverai au théâtre.
Dauriat, je fais l'affaire, mais à des conditions.
Entrons dans votre cabinet. »
« Viens, mon petit, » dit Dauriat en laissant passer Finot devant lui et faisant un geste d'homme occupé à 10 personnes qui attendaient. Il allait disparaître quand Lucien, impatient, l'arrêta.
« Vous gardez mon manuscrit. À quand la réponse ?»«
Mais, mon petit poète, reviens ici dans 3 ou 4 jours. Nous verrons. »
Lucien fut entraîné par Lousteau qui ne lui laissa pas le temps de saluer Vernou, ni Blondet, ni Raoul Nathan, ni le général Foy, ni Benjamin Constant, dont l'ouvrage sur les 100 jours venait de paraître. Lucien entrevit à peine cette tête blonde et fine, ce visage oblong, ces yeux spirituels, cette bouche agréable, enfin l'homme qui pendant 20 ans avait été le Potemkin de Madame de Staël et qui faisait la guerre aux Bourbons après l'avoir faite à Napoléon, mais qui devait mourir, atterré de sa victoire.
« Quelle boutique !» s'écria Lucien quand il fut assis dans un cabriolet de place à côté de Lousteau.
Au panorama dramatique et du train.
Tu as 30 sous pour ta course, dit Étienne au cocher.
Dauriat est un drôle qui vend pour 1 500 000 francs de livres par an. Il est comme le ministre de la littérature, répondit Lousteau, dont l'amour-propre était agréablement chatouillé et qui se posait en maître devant Lucien. Son avidité, tout aussi grande que celle de Barbet, s'exerce sur des masses. Dauriat a des formes, il est généreux, mais il est vain. Quant à son esprit, ça se compose de tout ce qu'il entend dire autour de lui. Sa boutique est un lieu très excellent à fréquenter. On peut y causer avec les gens supérieurs de l'époque. Là, mon cher, un jeune homme en apprend plus en 1 heure qu'à pâlir sur des livres pendant 10 ans. On y discute des articles, on y brasse des sujets, on s'y lit avec des gens célèbres ou influents qui peuvent être utiles. Aujourd'hui, pour réussir, il est nécessaire d'avoir des relations. Tout est hasard, vous le voyez. Ce qu'il y a de plus dangereux est d'avoir de l'esprit tout seul dans son coin.
Mais quelle impertinence, dit Lucien.
Bah, nous nous moquons tous de Dauriat, répondit Étienne. Vous avez besoin de lui, il vous marche sur le ventre, il a besoin du journal des débats, Émile Blondet le fait tourner comme une toupie.
Oh, si vous entrez dans la littérature, vous en verrez bien d'autres.
Eh bien, que vous disais-je?
Oui, vous avez raison, répondit Lucien. J'ai souffert dans cette boutique encore plus cruellement que je ne m'y attendais, d'après votre programme.
Et pourquoi vous livrer à la souffrance? Ce qui nous coûte notre vie, le sujet qui, durant des nuits studieuses, a ravagé notre cerveau, toutes ces courses à travers les champs de la pensée. Notre monument construit avec notre sang devient pour les éditeurs une affaire bonne ou mauvaise. Les libraires vendront ou ne vendront pas votre manuscrit. Voilà pour eux tout le problème. Un livre, pour eux, représente des capitaux à risquer. Plus le livre est beau, moins il a de chances d'être vendu. Tout homme supérieur s'élève au-dessus des masses. Son succès est donc en raison directe avec le temps nécessaire pour apprécier l'œuvre. Aucun libraire ne veut attendre. Le livre d'aujourd'hui doit être vendu demain. Dans ce système-là, les libraires refusent les livres substantiels auxquels il faut de hautes, de lentes approbations.
D'Arthez a raison, s'écria Lucien.
Vous connaissez d'Arthez ? Dit Lousteau.
Je ne sais rien de plus dangereux que les esprits solitaires qui pensent, comme ce garçon-là, pouvoir attirer le monde à eux, en fanatisant les jeunes imaginations par une croyance qui flatte la force immense que nous sentons d'abord en nous-mêmes. Ces gens à gloire posthume les empêchent de se remuer à l'âge où le mouvement est possible et profitable. Je suis pour le système de Mahomet qui, après avoir commandé à la montagne de venir à lui, s'est écrié « Si tu ne viens pas à moi, j'irai donc vers toi. » Cette saillie, où la raison prenait une forme incisive, était de nature à faire hésiter Lucien entre le système de pauvreté soumise que prêchait le Cénacle et la doctrine militante que Lousteau lui exposait. Aussi le poète d'Angoulême garda-t-il le silence jusqu'au boulevard du Temple. Le panorama dramatique, aujourd'hui remplacé par une maison, était une charmante salle de spectacle située vis-à-vis la rue Charlot, sur le boulevard du Temple, et où deux administrations succombèrent sans obtenir un seul succès, quoique Bouffé, l'un des acteurs qui se sont partagés la succession de Potier, y ait débuté, ainsi que Florine, actrice qui, 5 ans plus tard, devint si célèbre. Les théâtres comme les hommes sont soumis à des fatalités. Le panorama dramatique avait à rivaliser avec l'Ambigu, la Gaîté, la Porte Saint-Martin et les théâtres de vaudeville. Il ne put résister à leurs manœuvres, aux restrictions de son privilège et au manque de bonnes pièces. Les auteurs ne voulurent pas se brouiller avec les théâtres existants pour un théâtre dont la vie semblait problématique. Cependant, l'administration comptait sur la pièce nouvelle, espèce de mélodrame comique d'un jeune auteur, collaborateur de quelques célébrités, nommé Dubruel, qui disait l'avoir faite à lui seul. Cette pièce avait été composée pour le début de Florine, jusqu'alors comparse à la Gaîté, où, depuis 1 an, elle jouait des petits rôles dans lesquels elle s'était fait remarquer, sans pouvoir obtenir d'engagement, en sorte que le panorama l'avait enlevée à son voisin. Coralie, une autre actrice, devait y débuter aussi. Quand les deux amis arrivèrent, Lucien fut stupéfait par l'exercice du pouvoir de la presse. « Monsieur est avec moi, » dit Étienne au contrôle, qui s'inclina tout entier. « Vous trouverez bien difficilement à vous placer, » dit le contrôleur en chef. « Il n'y a plus de disponible que la loge du directeur. » Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les ouvreuses. « Allons dans la salle. Nous parlerons au directeur qui nous prendra dans sa loge. D'ailleurs, je vous présenterai à l'héroïne de la soirée, à Florine. » Sur un signe de Lousteau, le portier de l'orchestre prit une petite clé et ouvrit une porte perdue dans un gros mur. Lucien suivit son ami et passa soudain du corridor illuminé au trou noir qui, dans presque tous les théâtres, sert de communication entre la salle et les coulisses. Puis, en montant quelques marches humides, le poète de province aborda la coulisse, où l'attendait le spectacle le plus étrange. L'étroitesse des portants, la hauteur du théâtre, les échelles à quinquer, les décorations si horribles vues de près, les acteurs plâtrés, leurs costumes si bizarres et faits d'étoffes si grossières, les garçons à veste huileuse, les cordes qui pendent, le régisseur qui se promène, son chapeau sur la tête, les comparses assises, les toiles de fond suspendues, les pompiers. Cet ensemble de choses bouffonnes, tristes, sales, affreuses, éclatantes ressemblait si peu à ce que Lucien avait vu de sa place au théâtre que son étonnement fut sans bornes. On achevait un gros bon mélodrame intitulé « Bertram », pièce imitée d'une tragédie de Mathurin qu'estimait infiniment Nodier, Lord Byron et Walter Scott, mais qui n'obtint aucun succès à Paris. « Ne quittez pas mon bras si vous ne voulez pas tomber dans une trappe, recevoir une forêt sur la tête, renverser un palais ou accrocher une chaumière, » dit Étienne à Lucien. « Florine est-elle dans sa loge, mon bijou ? » dit-il à une actrice qui se préparait à son entrée en scène en écoutant les acteurs. « Oui, mon amour, je te remercie de ce que tu as dit de moi. Tu es d'autant plus gentil que Florine entrait ici. « Allons, ne manque pas ton effet, ma petite, » lui dit Lousteau. « Précipite-toi, ô la patte. Dis-moi bien, arrête, malheureux.
car il y a 2 000 francs de recettes. » Lucien, stupéfait, vit l'actrice se composer et s'écriant « Arrête, malheureux !» de manière à le glacer d'effroi. Ce n'était plus la même femme. « Voilà donc le théâtre !» se dit-il. « C'est comme la boutique des galeries de bois et comme un journal pour la littérature. Une vraie cuisine. » Nathan parut. « Pour qui venez-vous donc ici ?» lui dit Lousteau. « Mais je fais les petits théâtres à la Gazette, en attendant mieux, » répondit Nathan. « Et soupez donc avec nous ce soir, et traitez bien Florine, à charge de revanche, » lui dit Lousteau. « Tout à votre service, » répondit Nathan. « Vous savez, elle demeure maintenant rue de Bondy. Qui donc est ce beau jeune homme avec qui tu es, mon petit Lousteau ?» dit l'actrice en rentrant de la scène dans la coulisse. « Ah, ma chère, un grand poète, un homme qui sera célèbre. Comme vous devez souper ensemble, monsieur Nathan, je vous présente monsieur Lucien de Rubempré. »« Vous portez un beau nom, monsieur, » dit Raoul à Lucien. « Lucien, monsieur Raoul Nathan, » fit Étienne à son nouvel ami. « Ma foi, monsieur, je vous lisais il y a 2 jours, et je n'ai pas conçu, quand on a fait votre livre et votre recueil de poésie, que vous soyez si humble devant un journaliste. » « Je vous attends à votre premier livre, » répondit Nathan en laissant échapper un fin sourire. « Tiens, tiens, les ultras et les libéraux se donnent donc des poignées de main, » s'écria Vernou en voyant ce trio. « Le matin, je suis des opinions de mon journal, » dit Nathan, « mais le soir, je pense ce que je veux. La nuit, tous les rédacteurs sont gris. » « Étienne, » dit Félicien en s'adressant à Lousteau, « Finot est venu avec moi, il te cherche, et le voilà. »« Ah, ça, il n'y a donc pas une place ?» dit Finot. « Vous en avez toujours une dans nos cœurs, » lui dit l'actrice qui lui adressa le plus agréable sourire. « Tiens, ma petite Florville, te voilà déjà guérie de ton amour. On te disait enlevée par un prince russe. Est-ce qu'on enlève les femmes aujourd'hui ?» dit la Florville, qui était l'actrice d'Arrête malheureux. Nous sommes restés 10 jours à Saint-Mandé. Mon prince en a été quitte pour une indemnité payée à l'administration. Le directeur, reprit Florville en riant, va prier Dieu qu'il vienne beaucoup de princes russes. Leurs indemnités lui feraient des recettes sans frais. Et toi, ma petite, dit Finot à une jolie paysanne qui les écoutait, où donc as-tu volé les boutons de diamant que tu as aux oreilles? As-tu fait un prince indien? Non, mais un marchand de cirage. Un Anglais qui est déjà parti. N'a pas qui veut, comme Florine et Coralie, des négociants millionnaires ennuyés de leur ménage. Sont-elles heureuses? Tu vas manquer ton entrée, Florville, s'écria Lousteau. Le cirage de ton ami te monte à la tête. Si tu veux avoir du succès, lui dit Nathan, au lieu de crier comme une furie, « Il est sauvé !» entre tout uniment, arrive jusqu'à la rampe et dit d'une voix de poitrine, « Il est sauvé !» comme la pasta dit « Oh, patria !» dans Tancrède. « Va donc !» ajouta-t-il en la poussant. « Il n'est plus temps. Elle rate son effet, » dit Vernou. « Qu'a-t-elle fait ?»« La salle applaudit à tout rompre, » dit Lousteau. « Elle leur a montré sa gorge en se mettant à genoux. C'est sa grande ressource, » dit l'actrice, veuve du cirage. « Le directeur nous donne sa loge. Tu m'y retrouveras, » dit Finot à Étienne. Lousteau conduisit alors Lucien derrière le théâtre à travers le dédale des coulisses, des corridors et des escaliers jusqu'au 3e étage, à une petite chambre où ils arrivèrent suivis de Nathan et de Félicien Vernou. « Bonjour ou bonsoir, messieurs, » dit Florine. « Monsieur, » dit-elle en se tournant vers un homme gros et court qui se tenait dans un coin, « ces messieurs sont les arbitres de mes destinées. Mon avenir est entre leurs mains. Mais ils seront, je l'espère, sous notre table demain matin, si monsieur Lousteau n'a rien oublié. Comment? Vous aurez Blondet, des débats? Lui dit Étienne. Le vrai Blondet, Blondet lui-même? Enfin, Blondet? Oh, mon petit Lousteau, tiens, il faut que je t'embrasse, dit-elle en lui sautant au cou. À cette démonstration, Matifat, le gros homme, prit un air sérieux. À 16 ans, Florine était maigre. Sa beauté, comme un bouton de fleur plein de promesses, ne pouvait plaire qu'aux artistes qui préfèrent les esquisses au tableau. cette charmante actrice avait dans les traits toute la finesse qui la caractérise et ressemblait alors à la Mignon de Goethe. Matifat, riche droguiste de la rue des Lombards, avait pensé qu'une petite actrice des boulevards serait peu dispendieuse. Mais, en 11 mois, Florine lui coûta 100 000 francs. Rien ne parut plus extraordinaire à Lucien que cet honnête et probe négociant, posé là comme un dieu terme, dans un coin de ce réduit de 10 pieds carrés, tendu d'un joli papier, décoré d'une psyché, d'un divan, de 2 chaises, d'un tapis, d'une cheminée et plein d'armoires. Une femme de chambre achevait d'habiller l'actrice en espagnol. La pièce était un imbroglio où Florine faisait le rôle d'une comtesse. Cette créature sera dans 5 ans la plus belle actrice de Paris, dit Nathan à Félicien. Ah ça, mes amours, dit Florine en se retournant vers les 3 journalistes, soignez-moi demain. D'abord, j'ai fait garder des voitures cette nuit, car je vous renverrai sous comme des mardi gras. Matifat a eu des vins, oh, mais des vins dignes de Louis XVIII, et il a pris le cuisinier du ministre de Prusse. Nous nous attendons à des choses énormes en voyant monsieur, dit Nathan. Mais il sait qu'il traite les hommes les plus dangereux de Paris, répondit Florine. Matifat regardait Lucien d'un air inquiet, car la grande beauté de ce jeune homme excitait sa jalousie. « Mais en voilà un que je ne connais pas, » dit Florine en avisant Lucien. « Qui de vous a ramené de Florence l'Apollon du Belvédère ? Monsieur est gentil comme une figure de Girodet. « Mademoiselle, » dit Lousteau, « monsieur est un poète de province que j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes si belle ce soir qu'il est impossible de songer à la civilité puérile et honnête. » « Est-il riche, qu'il fait de la poésie ?» demanda Florine. « Pauvre comme Job, » répondit Lucien. « C'est bien tentant pour nous autres, » dit l'actrice. Dubruel, l'auteur de la pièce, un jeune homme en redingote, petit, délié, tenant à la fois du bureaucrate, du propriétaire et de l'agent de change, entra soudain. « Ma petite Florine, vous savez bien votre rôle, hein ? Pas de défaut de mémoire. « Soignez la scène du second acte, du mordant, de la finesse. Dites bien, je ne vous aime pas, comme nous en sommes convenus. « Pourquoi prenez-vous des rôles où il y a de pareilles phrases ?» dit Matifat à Florine. Un rire universel accueillit l'observation du droguiste. « Qu'est-ce que cela vous fait ? » lui dit-elle, « puisque ce n'est pas à vous que je parle, animal bête. Oh, il fait mon bonheur avec ses niaiseries. » ajouta-t-elle en regardant les auteurs. « Foi d'honnête fille, je lui paierai tant par bêtise, si ça ne devait pas me ruiner. Oui, mais vous me regarderez en disant cela comme quand vous répétez votre rôle, et ça me fait peur, » répondit le droguiste. « Eh bien, je regarderai mon petit Lousteau, » répondit-elle. Une cloche retentit dans les corridors. « Allez-vous-en tous, » dit Florine, « laissez-moi relire mon rôle et tâchez de le comprendre. » Lucien et Lousteau partirent les derniers. Lousteau baisa les épaules de Florine et Lucien entendit l'actrice disant « Impossible pour ce soir. Cette vieille bête a dit à sa femme qu'il allait à la campagne. »« La trouvez-vous gentille ?» dit Étienne à Lucien. « Mais, mon cher, ce Matifat !» s'écria Lucien. « Eh, mon enfant, vous ne savez rien encore de la vie parisienne, » répondit Lousteau. « Il est des nécessités qu'il faut subir. » C'est comme si vous aimiez une femme mariée, voilà tout. On se fait une raison. Étienne et Lucien entrèrent dans une loge d'avant-scène, au rez-de-chaussée, où ils trouvèrent le directeur du théâtre et Finot. En face, Matifat était dans la loge opposée avec un de ses amis nommé Camusot, un marchand de soieries, qui protégeait Coralie et accompagné d'un honnête petit vieillard, son beau-père. Ces 3 bourgeois nettoyaient le verre de leur lorgnette en regardant le parterre dont les agitations les inquiétaient. Les loges offraient la société bizarre des premières représentations, des journalistes et leurs maîtresses, des femmes entretenues et leurs amants, quelques vieux habitués des théâtres friands de premières représentations, des personnes du beau monde qui aiment ces sortes d'émotions. Dans une première loge se trouvait le directeur général et sa famille qui avaient casé Dubruel dans une administration financière où le faiseur de vaudeville touchait les appointements d'une sinécure. Lucien, depuis son dîner, voyageait d'étonnement en étonnement. La vie littéraire, depuis 2 mois si pauvre, si dénuée à ses yeux, si horrible dans la chambre de Lousteau, si humble et si insolente à la fois aux galeries de bois, se déroulait avec d'étranges magnificences et sous des aspects singuliers. Ce mélange de haut et de bas, de compromis avec la conscience, de suprématie et de lâcheté, de trahison et de plaisir, de grandeurs et de servitude, le rendait hébété, comme un homme attentif à un spectacle inouï. Croyez-vous que la pièce de Dubruel vous fasse de l'argent ? Dit Finot au directeur. La pièce est une pièce d'intrigue où Dubruel a voulu faire du Beaumarchais. Le public des boulevards n'aime pas ce genre. Il veut être bourré d'émotions. L'esprit n'est pas apprécié ici. Tout, ce soir, dépend de Florine et de Coralie qui sont ravissantes de grâce, de beauté. Ces deux créatures ont des jupes très courtes, elles dansent un pas espagnol, elles peuvent enlever le public. Cette représentation est un coup de carte. Si les journaux me font quelques articles spirituels, en cas de réussite, je puis gagner 100 000 écus. Allons, je le vois. Ce ne sera qu'un succès d'estime, dit Finot. Il y a une cabale montée par les 3 théâtres voisins. On va siffler quand même. Mais je me suis mis en mesure de déjouer ses mauvaises intentions. J'ai surpayé les claqueurs, envoyés contre moi, ils siffleront maladroitement. Voilà 2 négociants qui, pour procurer un triomphe à Coralie et à Florine, ont pris chacun 100 billets et les ont donnés à des connaissances capables de faire mettre la cabale à la porte. La cabale, 2 fois payée, se laissera renvoyer, et cette exécution dispose toujours bien le public. 200 billets ? Quels gens précieux ! S'écria Finot. Oui, avec 2 autres jolies actrices aussi richement entretenues que Florine et Coralie, je me tirerai d'affaire. Depuis 2 heures, aux oreilles de Lucien, tout se résolvait par de l'argent. Au théâtre comme en librairie comme au journal, de l'art et de la gloire, il n'en était pas question. Ces coups du grand balancier de la monnaie, répétés sur sa tête et sur son cœur, les lui martelaient. Pendant que l'orchestre jouait l'ouverture, il ne put s'empêcher d'opposer aux applaudissements et aux sifflets du parterre, en émeute, les scènes de poésie calme et pure qu'il avait goûtées dans l'imprimerie de David, quand tous deux ils voyaient les merveilles de l'art, les nobles triomphes du génie, la gloire aux ailes blanches. En se rappelant les soirées du Cénacle, une larme brilla dans les yeux du poète. « Qu'avez-vous ? » lui dit Étienne Lousteau. « Je vois la poésie dans un bourbier, » dit-il. « Eh, mon cher, vous avez encore des illusions. Mais faut-il donc ramper et subir ici ces gros Matifat et Camusot, comme les actrices subissent les journalistes, comme nous subissons les libraires ?»« Mon petit, » lui dit à l'oreille Étienne en lui montrant Finot. Vous voyez ce lourd garçon, sans esprit ni talent, mais avide, voulant la fortune à tout prix et habile en affaires, qui dans la boutique de Doria m'a pris 40% en ayant l'air de m'obliger. Eh bien, il a des lettres où plusieurs génies en herbe sont à genoux, devant lui, pour 100 francs. Une contraction causée par le dégoût serra le cœur de Lucien, qui se rappela, « Finot, mais 100 francs ?» ce dessin laissé sur le tapis vert de la rédaction. « Plutôt mourir, dit-il. »« Plutôt vivre, lui répondit Étienne. » Au moment où la toile se leva, le directeur sortit et alla dans les coulisses pour donner quelques ordres. « Mon cher, dit alors Finot à Étienne, j'ai la parole de Doria. Je suis pour 1/3 dans la propriété du journal hebdomadaire. J'ai traité pour 30 000 francs comptant, à condition d'être fait rédacteur en chef et directeur. » C'est une affaire superbe. Blondet m'a dit qu'il se prépare des lois restrictives contre la presse. Les journaux existants seront seuls conservés. Dans 6 mois, il faudra 1 million pour entreprendre un nouveau journal. J'ai donc conclu sans avoir, à moi, plus de 10 000 francs. Écoute-moi. Si tu peux faire acheter la moitié de ma part, 1/6, à Matifat pour 30 000 francs, je te donnerai la rédaction en chef de mon petit journal avec 250 francs par mois. Tu seras mon prête-nom. Je veux pouvoir toujours diriger la rédaction, y garder tous mes intérêts et ne pas avoir l'air d'y être pour quelque chose. Tous les articles te seront payés à raison de 100 sous la colonne. Ainsi, tu peux te faire un boni de 15 francs par jour en ne les payant que 3 francs et en profitant de la rédaction gratuite. C'est encore 450 francs par mois. Mais je veux rester maître de faire attaquer ou défendre les hommes et les affaires à mon gré dans le journal, tout en te laissant satisfaire les haines et les amitiés qui ne gêneront point ma politique. Peut-être serai-je ministériel ou ultra, je ne sais pas encore, mais je veux conserver, en dessous main, mes relations libérales. Je te dis tout, à toi qui es un bon enfant. Peut-être te ferai-je avoir les chambres dans le journal, où je les fais, je ne pourrai sans doute pas les garder. Ainsi emploie Florine à ce petit maquignonnage. Dis-lui de presser vivement le bouton au droguiste. Je n'ai que 48 heures pour me dédire. Si je ne peux pas payer, Dauriat a vendu l'autre tiers, 30 000 francs, à son imprimeur et à son marchand de papier. Il a, lui, son tiers gratis, et gagne 10 000 francs, puisque le tout ne lui en coûte que 50 000. Mais dans un an, le recueil vaudra 200 000 francs à vendre à la cour, si elle a, comme on le prétend, le bon sens d'amortir les journaux. « Tu as du bonheur !» s'écria Lousteau. « Si tu avais passé par les jours de misère que j'ai connus, tu ne dirais pas ce mot-là. Mais dans ce temps-ci, vois-tu, je jouis d'un malheur sans remède. Je suis fils d'un chapelier qui vend encore des chapeaux rue du Coq. Il n'y a qu'une révolution qui puisse me faire arriver, et, faute d'un bouleversement social, je dois avoir des millions. Je ne sais pas si... de ces deux choses, la révolution n'est pas la plus facile. Si je portais le nom de ton ami, je serais dans une belle passe. Silence. Voici le directeur. Adieu, dit Finot en se levant. Je vais à l'opéra. J'aurai peut-être un duel demain. Je fais et signe d'un F un article foudroyant contre deux danseuses qui ont des généraux pour amis. J'attaque et raide l'opéra. Ah bah, dit le directeur. « Oui, chacun lésine avec moi, » répondit Finot. « Celui-ci me retranche mes loges, celui-là refuse de me prendre 50 abonnements. J'ai donné mon ultimatum à l'opéra. Je veux maintenant 100 abonnements et 4 loges par mois. S'ils acceptent, mon journal aura 800 abonnés servis et 1000 payants. Je sais les moyens d'avoir encore 200 autres abonnements. Nous serons à 1200 en janvier. « Vous finirez par nous ruiner, » dit le directeur. Vous êtes bien malade, vous, avec vos 10 abonnements. Je vous ai fait faire 2 bons articles constitutionnels. Oh, je ne me plains pas de vous, s'écria le directeur. À demain soir, Lousteau, reprit Finot. Tu me donneras réponse aux Français, où il y a une première représentation, et comme je ne pourrai pas faire l'article, tu prendras ma loge au journal. Je te donne la préférence. Tu t'es échiné pour moi, je suis reconnaissant. « Félicien Vernou m'offre de me faire remise des appointements pendant 1 an et me propose 20 000 francs pour un tiers dans la propriété du journal. Mais j'y veux rester maître absolu. Adieu. » « Il ne se nomme pas Finot pour rien, celui-là, » dit Lucien à Lousteau. « Oh, c'est un pendu qui fera son chemin, » lui répondit Étienne, sans se soucier d'être ou non entendu par l'homme habile qui fermait la porte de la loge. « Lui ?» dit le directeur. « Il sera millionnaire, il jouira de la considération générale, et peut-être aura-t-il des amis. »« Bon Dieu !» dit Lucien. « Quelle caverne ! Et vous allez faire entamer par cette délicieuse fille une pareille négociation ?» dit-il en montrant Florine qui leur lançait des œillades. « Et elle réussira. Vous ne connaissez pas le dévouement et la finesse de ces chères créatures, » répondit Lousteau. Elles rachètent tous leurs défauts, elles effacent toutes leurs fautes par l'étendue, par l'infini de leur amour quand elles aiment, dit le directeur en continuant. La passion d'une actrice est une chose d'autant plus belle qu'elle produit un plus violent contraste avec son entourage. C'est trouver dans la boue un diamant digne d'orner la couronne la plus orgueilleuse, répliqua Lousteau. Mais, reprit le directeur, Coralie est distraite. « Votre amie fait Coralie sans s'en douter, et va lui faire manquer tous ses effets. Elle n'est plus à ses répliques. Voilà 2 fois qu'elle n'entend pas le souffleur. « Monsieur, je vous en prie, mettez-vous dans ce coin, » dit-il à Lucien. « Si Coralie est amoureuse de vous, je vais aller lui dire que vous êtes parti. » « Et non, » s'écria Lousteau, « dites-lui que monsieur est du souper, qu'elle en fera ce qu'elle voudra, et elle jouera comme Mademoiselle Mars. » Le directeur partit. « Mon ami, » dit Lucien à Étienne, « comment ? Vous n'avez aucun scrupule de faire demander par mademoiselle Florine 30 000 francs à ce droguiste pour la moitié d'une chose que Finot vient d'acheter à ce prix-là ?» Lousteau ne laissa pas à Lucien le temps de finir son raisonnement. « Mais de quel pays êtes-vous donc, mon cher enfant ? Ce droguiste n'est pas un homme, c'est un coffre-fort donné par l'amour. Mais votre conscience ?»
La conscience, mon cher, est un de ces bâtons que chacun prend pour battre son voisin et dont il ne se sert jamais pour lui.
Ah ça, à qui diable en avez-vous?
Le hasard fait pour vous en un jour un miracle que j'ai attendu pendant 2 ans, et vous vous amusez à en discuter les moyens.
Comment? Vous qui me paraissez avoir de l'esprit, qui arriverez à l'indépendance d'idées que doivent avoir les aventuriers intellectuels dans le monde où nous sommes, vous barbotez dans des scrupules de religieuse qui s'accuse d'avoir mangé son œuf avec concupiscence. Si Florine réussit, je deviens rédacteur en chef, je gagne 250 francs de fixe, je prends les grands théâtres, je laisse à Vernou les théâtres de vaudeville, vous mettez le pied à l'étrier en me succédant dans tous les théâtres des boulevards. Vous aurez alors 3 francs par colonne, et vous en écrirez une par jour. 30 par mois, qui vous produiront 90 francs. Vous aurez pour 60 francs de livres à vendre à Barbet, puis vous pouvez demander mensuellement à vos théâtres 10 billets en tout, 40 billets que vous vendrez 40 francs au Barbet des théâtres, un homme avec qui je vous mettrai en relation. Ainsi, je vous vois 200 francs par mois. Vous pourriez, en vous rendant utile à Finot, placer un article de 100 francs dans son nouveau journal hebdomadaire, au cas où vous déploieriez un talent transcendant. Car là, on signe, et il ne faut plus rien lâcher comme dans le petit journal. Vous auriez alors 100 écus par mois. Mon cher, il y a des gens de talent comme ce pauvre d'Arthez qui dînent tous les jours chez Flicoteaux. Ils sont 10 ans avant de gagner 100 écus. Vous vous ferez avec votre plume 4 000 francs par an, sans compter les revenus de la librairie, si vous écrivez pour elle. Or, un sous-préfet n'a que 1 000 écus d'appointement, et s'amuse comme un bâton de chaise dans son arrondissement. Je ne vous parle pas du plaisir d'aller au spectacle sans payer, car ce plaisir deviendra bientôt une fatigue. Mais vous aurez vos entrées dans les coulisses de 4 théâtres. Soyez dur et spirituel pendant 1 ou 2 mois. Vous serez accablé d'invitations, de parties avec les actrices. Vous serez courtisé par leurs amants. Vous ne dînerez chez Flicoteaux qu'au jour où vous n'aurez pas 30 sous dans votre poche, ni pas un dîner en ville. Vous ne saviez où donner de la tête à 5 heures dans le Luxembourg. Vous êtes à la veille de devenir une des 100 personnes privilégiées qui imposent des opinions à la France. Dans 3 jours, si nous réussissons, vous pouvez, avec 30 bons mots imprimés à raison de 3 par jour, faire maudire la vie à un homme. Vous pouvez vous créer des rentes de plaisir chez toutes les actrices de vos théâtres. Vous pouvez faire tomber une bonne pièce et faire courir tout Paris à une mauvaise. Si Doria refuse d'imprimer les Marguerites sans vous en rien donner, vous pouvez le faire venir, humble et soumis, chez vous. Vous les achetez 2 000 francs. Ayez du talent et flanquez dans 3 journaux différents 3 articles qui menacent de tuer quelques-unes des spéculations de Doria ou un livre sur lequel il compte. Vous le verrez grimpant à votre mansarde et y séjournant comme une clématite. Enfin, votre roman, les libraires, qui dans ce moment vous mettraient tous à la porte plus ou moins poliment, feront queue chez vous. Et le manuscrit que le père Dogros vous estimerait 400 francs sera surenchéri jusqu'à 4 000 francs. Voilà les bénéfices du métier de journaliste. Aussi, défendons-nous l'approche des journaux à tous les nouveaux venus. Non seulement il faut un immense talent, mais encore bien du bonheur pour y pénétrer. Et vous chicanez votre bonheur. Voyez. Si nous ne nous étions pas rencontrés aujourd'hui chez Flicoteaux, vous pouviez faire le pied de grue encore pendant 3 ans, ou mourir de faim comme d'Arthez, dans un grenier. Quand d'Arthez sera devenu aussi instruit que Bell et aussi grand écrivain que Rousseau, nous aurons fait notre fortune, nous serons maîtres de la sienne et de sa gloire. Finot sera député, propriétaire d'un grand journal, et nous serons, nous, ce que nous aurons voulu être, pairs de France ou détenus à Sainte-Pélagie pour dette. Et Finot vendra son grand journal aux ministres qui lui donneront le plus d'argent. comme il vend ses éloges à Madame Bastienne, en dénigrant Mademoiselle Virginie, et prouvant que les chapeaux de la première sont supérieurs à ceux que le journal vantait d'abord, s'écria Lucien en se rappelant la scène dont il avait été témoin.
« Vous êtes un niais, mon cher, » répondit Lousteau d'un ton sec.
Finot, il y a 3 ans, marchait sur les tiges de ses bottes, dînait chez Tabar à 18 sous, brochait un prospectus pour 10 francs, et son habit lui tenait sur le corps par un mystère aussi impénétrable que celui de l'Immaculée Conception. Finot a maintenant à lui seul son journal estimé 100 000 francs, avec les abonnements payés et non servis, avec les abonnements réels et les contributions indirectes perçues par son oncle. Il gagne 20 000 francs par an. Il a tous les jours les plus somptueux dîners du monde. Il a cabriolé depuis 1 mois. Enfin, le voilà demain à la tête d'un journal hebdomadaire avec 1/6 de la propriété pour rien. 500 francs par mois de traitement auquel il ajoutera 1000 francs de rédaction obtenus gratis et qu'il fera payer à ses associés. Vous, le premier, si Finot consent à vous payer 50 francs la feuille, serez trop heureux de lui apporter 3 articles pour rien. Quand vous aurez gagné 100 000 francs, vous pourrez juger Finot. On ne peut être jugé que par ses pairs. N'avez-vous pas un immense avenir si vous obéissez aveuglément aux haines de position, si vous attaquez quand Finot vous dira « attaque », si vous louez quand il vous dira « loue », lorsque vous aurez une vengeance à exercer contre quelqu'un, vous pourrez rouer votre ami ou votre ennemi par une phrase insérée tous les matins à notre journal en me disant « Lousteau, tuons cet homme-là ». Vous réassassinerez votre victime par un grand article dans le journal hebdomadaire. Enfin, si l'affaire est capitale pour vous, Finot, à qui vous vous serez rendu nécessaire, vous laissera porter un dernier coup d'assommoir dans un grand journal qui aura 10 ou 12 000 abonnés. Ainsi, vous croyez que Florine pourra décider son droguiste à faire le marché ? Dit Lucien ébloui.
Je le crois bien. Voici l'entracte. Je vais déjà lui en aller dire 2 mots. Cela se conclura cette nuit. Une fois sa leçon faite, Florine aura tout mon esprit et le sien. Et cet honnête négociant qui est là, bouche béante, admirant Florine, sans se douter qu'on va lui extirper 30 000 francs ?
Encore une autre sottise ! Ne dirait-on pas qu'on le vole ? S'écria Lousteau.
Mais, mon cher, si le ministère achète le journal dans 6 mois, le droguiste aura peut-être 50 000 francs de ses 30 000. Puis Matifat ne verra pas le journal, mais les intérêts de Florine. Quand on saura que Matifat et Camusot, car ils se partageront l'affaire, sont propriétaires d'une revue, il y aura dans tous les journaux des articles bienveillants pour Florine et Coralie. Florine va devenir célèbre. Elle aura peut-être un engagement de 12 000 francs dans un autre théâtre. Enfin, Matifat économisera les 1 000 francs par mois que lui coûteraient les cadeaux et les dîners aux journalistes. Vous ne connaissez ni les hommes, ni les affaires.
Pauvre homme, dit Lucien, il compte avoir une nuit agréable.
Et, reprit Lousteau, il sera scié en deux par 1000 raisonnements jusqu'à ce qu'il ait montré à Florine l'acquisition du 6e acheté à Finot. Et moi, le lendemain, je serai rédacteur en chef et je gagnerai 1 000 francs par mois. Voici donc la fin de mes misères, s'écria l'amant de Florine.
Lousteau sortit, laissant Lucien abasourdi, perdu dans un abîme de pensées, volant au-dessus du monde comme il est, après avoir vu aux galeries de bois les ficelles de la librairie et la cuisine de la gloire. Après s'être promené dans les coulisses du théâtre, le poète apercevait l'envers des consciences, le jeu des rouages de la vie parisienne, le mécanisme de toutes choses. Il avait envié le bonheur de Lousteau en admirant Florine en scène. Déjà, pendant quelques instants, il avait oublié Matifat. Il demeura là durant un temps inappréciable, peut-être 5 minutes. Ce fut une éternité. Des pensées ardentes enflammaient son âme. Comme ses sens étaient embrasés par le spectacle de ces actrices aux yeux lascifs et relevés par le rouge, à gorges étincelantes, vêtues de basquines voluptueuses à plis licencieux, à jupes courtes montrant leurs jambes en bas rouges à coins verts, chaussées de manière à mettre un parterre en émoi. Deux corruptions marchaient sur 2 lignes parallèles, comme 2 nappes qui,
dans une inondation, veulent se rejoindre. Elle dévorait le poète, accoudé dans le coin de la loge, le bras sur le velours rouge de l'appui, la main pendante, les yeux fixés sur la toile, et d'autant plus accessible aux enchantements de cette vie mélangée d'éclairs et de nuages qu'elle brillait comme un feu d'artifice après la nuit profonde de sa vie travailleuse, obscure, monotone. Tout à coup, la lumière amoureuse d'un œil ruissela sur les yeux inattentifs de Lucien en trouant le rideau du théâtre. Le poète, réveillé de son engourdissement, reconnut l'œil de Coralie qui le brûlait. Il baissa la tête et regarda Camusot qui rentrait alors dans la loge en face. Fin de la 21e section.
Save big this holiday season. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.